Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé-bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme chaque jour, il est évidemment à mes côtés, il est prêt, il a pris sa fourchette, son couteau, ses baskets. On va parler de sport et d'alimentation aujourd'hui. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au programme aujourd'hui, Europe 1, vous le savez, étant la radio officielle du tournoi de Roland-Garros, on vous propose une émission sportive, enfin plutôt tournée sur la bonne alimentation à avoir quand on est sportif. Alors, pas forcément sportif de haut niveau, hein. On vous révélera pas les assiettes secrètes de Raphaël Nadal ou Jimmy Mohamed. Mais nous verrons quelles sont les règles alimentaires à respecter quand on est plus ou moins actif. Pour nous expliquer tout cela, nous recevrons le docteur Catherine Lacronière, elle est médecin nutritionniste à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Jimmy nous dira aujourd'hui ce qu'il faut savoir sur la phlébite, cet accident veineux qu'il faut prendre très au sérieux, comment l'éviter, la dépister, la soigner. Il nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle évoquera certaines difficultés rencontrées les plus fréquemment vis-à-vis du sexe oral.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question de Imen. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy. J'ai entendu parler du déni de grossesse, mais je comprends vraiment pas comment c'est possible. J'ai une collègue qui en a fait un récemment alors qu'elle avait encore ses règles. Et c'est qu'au 6e mois de la grossesse qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Ça me fait vraiment, vraiment flipper. Comment ça se passe? Merci.
Alors, pour vous répondre précisément sur cette question, Imen, nous avons interrogé pour vous le docteur Louisa Attali, docteur en psychopathologie au CHU de Strasbourg.
L'expression déni de grossesse est un peu un fourre-tout. Chaque vécu est différent, le déni, quant à lui, reste assez rare. Les femmes ont la plupart du temps plutôt recours à une dénégation de grossesse. Alors, la dénégation de grossesse, c'est l'idée que la pensée d'être enceinte surgit de temps en temps à la conscience, mais cette pensée, elle va être de suite refoulée, rejetée hors du champ de la conscience, dans l'inconscient. Cette dénégation, c'est un mécanisme de défense qui va protéger la femme et qui va lui permettre de poursuivre finalement une grossesse qu'elle a très désirée. Et les femmes, en fait, pendant la grossesse, n'ont pas vraiment des règles naturelles. C'est ce qu'on appelle des règles de privation. Elles ont des règles artificielles qui sont provoquées par la poursuite de la prise de la pilule. J'entends par cette question que vous êtes très inquiète, ne le soyez surtout pas. Votre question souligne finalement déjà le fait que vous n'aurez jamais recours à un déni de grossesse.
Voilà, c'était le docteur Attali au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, c'est à vous, on va prendre une deuxième question, celle de Christiane, écoutons-la.
Bonjour, alors je suis Christiane, donc j'ai 56 ans, je ne veux pas me faire vacciner en fait parce que j'ai des problèmes de santé. Sur ma dernière analyse qui date d'hier, une analyse sanguine, j'ai un sodium à 124, donc c'est pas assez, mais de toute façon je mange sans sel depuis 1992 et j'ai peur d'être hospitalisée parce que à l'hôpital on va m'obliger à manger salé, je veux pas de ça. Voilà, alors comment je dois faire? Merci.
Alors Jimmy, d'abord que Christiane nous dit qu'elle refuse de se faire vacciner. Je suppose que c'est contre le Covid, hein, parce qu'elle a des problèmes de santé, c'est ce qu'elle dit. Profitons-en peut-être pour rappeler à Christiane et à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a quasiment aucune pathologie qui contre-indique à cette vaccination.
Évidemment, alors elle dit qu'elle ne veut pas se faire vacciner, c'est son droit. On ne contraint personne à la vaccination. On expose les bénéfices et les risques de la vaccination et en l'état actuel des connaissances, on considère que les bénéfices sont largement supérieurs aux risques. Donc évidemment qu'elle peut ne pas se faire vacciner, mais l'argument qu'elle utilise est plutôt mauvais, puisqu'elle dit « étant donné que j'ai des problèmes de santé ». Or, à l'heure actuelle, il n'existe aucune maladie pour laquelle il y a une contre-indication à la vaccination. Et au contraire, plus vous avez des pathologies de plus en plus
lourdes,
graves,
plus vous êtes fragile, oui,
plus
c'est
vous
ça.
Êtes âgé et plus vous êtes à risque de formes graves de coronavirus. Et je vous rappelle qu'il y aurait environ 20% des patients de plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinés et qu'on risque de retrouver cet hiver dans les hôpitaux.
Et donc, en pour réanimation,
votre santé, exactement. C'est
ouais.
pour ça qu'on propose de se faire vacciner. C'est pas pour embêter les gens, c'est pour sauver des vies.
Encore une fois, vous faites évidemment comme vous le voulez. Alors, elle évoque des problèmes de sodium dans le sang avant d'expliquer que bah, ça non plus, on est d'accord. Avant d'expliquer ce que c'est pas une contre-indication à la vaccination.
Absolument pas. Ouais. La baisse du sodium dans le sang, on appelle ça l'hyponatrémie. C'est le taux de sodium qui va être trop bas dans le sang. Pour faire très simple, le sodium, c'est le sel. Donc ça peut être lié au fait que vous ne mangez pas suffisamment salé.
Elle le dit, elle ne mange pas salé du tout.
Exactement. Ouais. Ou qu'à l'inverse, étant donné que vous ne buvez beaucoup trop, eh bien le sel va être dilué et vous avez cette hyponatrémie. Et puis il y a certaines pathologies, certains médicaments qui peuvent favoriser ça, notamment les diurétiques, les médicaments qu'il faut faire un peu pipi, et puis l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale ou même la cirrhose peuvent prédisposer à l'hyponatrémie, mais souvent, on retrouve des patients qui vont être potomanes, qui vont boire beaucoup, beaucoup d'eau, plusieurs litres par jour.
C'est potoman, hein, quand,
exactement,
quand on a ce problème-là.
Et forcément, ouais, le sel va baisser et ça peut avoir un véritable impact sur sa santé.
Elle dit craindre justement une hospitalisation où on la forcerait à manger du sel. Que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors, il faut bien comprendre que le sodium, c'est du sel et que le cerveau va être très sensible aux variations de sel. Et plus ce sel est bas, plus il y a un risque de dégâts neurologiques avec de la léthargie, de la confusion, et puis un risque d'épilepsie, de convulsion, voire même dans les cas les plus sévères, de coma et même de mort. C'est pour ça qu'on va pouvoir hospitaliser les malades qui vont avoir un taux de sodium qui est très très bas. Et plus il est bas, plus les risques sont importants.
Bon, on va revenir sur la vaccination, Jimmy, qui est ouverte à tous les adultes désormais. De nombreux jeunes y vont de bon cœur, mais d'autres se demandent quand même quel est l'intérêt pour eux. Ils disent, bon, je suis en bonne santé, je suis pas âgé, j'ai pas de comorbidité. À quoi bon pour moi? À quoi bon alors, Jimmy?
Alors, ça permet de vaincre la guerre contre le coronavirus, puisqu'on a besoin d'une circulation la plus faible possible pour éviter d'avoir des variants. La circulation d'aujourd'hui, c'est les variants de demain. Et donc, on prépare l'automne et l'hiver dès aujourd'hui. En supprimant le virus, on limite le risque de copie du coronavirus et donc d'aboutissement de variants. Et puis, mine de rien, lorsque vous vaccinez, vous n'allez pas transmettre la maladie, et ça c'est clair, notamment aux personnes âgées qui vont moins bien répondre à la vaccination. Et puis, à titre personnel, on ne sait pas quelles sont les conséquences du coronavirus sur long terme. On estime à 15% les patients qui vont faire des Covid longs, des symptômes un peu étranges.
Ils ont même 30 ans et pas obèses.
Exactement.
Et certains
vont mourir. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer pour les enfants. Donc, pour votre santé et celle des autres, faites-vous vacciner ou en tout cas, discutez-en avec votre médecin traitant.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer à la séquence gourmande de cette émission. Que faut-il manger, mettre dans son assiette pour être plus performant? Bon, ou même être performant tout court, on va dire, hein, du point de vue sportif. Comment bien se nourrir quand on est actif pour rester simplement en bonne santé, ne manquer de rien? C'est dans quelques minutes, c'est sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Catherine Lacronière. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et donc avec vous, on va s'intéresser à notre alimentation. Celle qui est bonne pour rester en forme et à la fois performante d'un point de vue sportif. C'est l'angle qu'on a choisi de traiter aujourd'hui. Quand on fait du sport, docteur Lacronière, qu'est-ce qui se passe déjà dans notre corps concrètement?
Eh bien, on a besoin d'énergie pour pouvoir assumer tout ce que le corps va demander. Donc, de l'énergie, on l'a en puisant dans ses réserves. On va d'abord utiliser le sucre qui circule, qu'on a obtenu suite au précédent repas. Et puis après, une fois que c'est fait, on va aller chercher les réserves en sucre qui s'appellent les réserves de glycogène, situées dans le muscle. Il y en a également dans le foie. Et puis, une fois que les réserves ont été bien utilisées, on va s'attaquer aux réserves de graisse.
Ah,
et les graisses, voilà, et les graisses vont se transformer en sucre pour servir à de l'énergie. Voilà.
Jimmy, vous n'allez jamais assez loin en fait. C'est pour ça que vous n'allez jamais taper dans la graisse.
Mais j'ai plein de réserves. Des réserves, j'en ai partout, dans le foie, dans la graisse, là où il faut. Mais du coup, au bout de combien de temps je peux espérer les mobiliser si je fais, allez, 15 minutes de sport? Est-ce que c'est suffisant?
Oula, 15 minutes, je pense que... Pas tout à fait, Jimmy. Désolé. En fait, ça dépend un petit peu de la nature du sport que vous allez faire. Si vous faites du cardio bien intensif, eh bien, au bout de 20 minutes, oui, vous allez toucher à vos réserves de graisse. Par contre, si vous faites un sport plus modéré, il va falloir attendre 30 voire même 40 minutes pour pouvoir aller chercher vos réserves de graisse.
Bon, vous s'énerver sur le scooter, Jimmy, c'est pas un sport, hein, je précise. Docteur Lacronière, est-ce qu'on peut accélérer un petit peu ce processus si, par exemple, je fais, je sais pas, du sport à jeun, sans avoir mangé?
Oui, alors c'est pas une mauvaise idée, hein. C'est ce que dit d'ailleurs certains chercheurs comme Max Lafontaine, de pouvoir commencer le sport à jeun. D'abord, certaines personnes peuvent craindre l'hypoglycémie, mais en fait ça se passe en général très bien. Et en effet, on va aller chercher ses réserves de graisse plus rapidement puisqu'on n'a pas eu d'apport en sucre récent.
Les salles de sport ouvrent enfin, on va pouvoir se remettre tout ce.
Je sais que ça vous fait plaisir quand même.
Mais du coup, est-ce qu'il faut faire attention à son alimentation si on fait une séance un peu intensive et qu'on ne s'alimente pas correctement? Est-ce qu'il y a des risques de blessures par exemple? Je ne sais pas.
Oui, alors il y a plusieurs risques. D'abord, si vous mangez mal, vous allez être moins performant, vous allez être trop fatigué, que vous soyez en hyperglycémie si vous venez de manger, si vous avez mangé trop sucré, ou en hypoglycémie si vous n'avez pas mangé suffisamment. Et puis en effet, il peut y avoir des risques de blessures, blessures qui vont être aggravées si vous ne vous hydratez pas correctement.
Ça, c'est de quel type de blessure? On parle de tendinite, par exemple,
voilà,
c'est ça?
Voilà, de tendinite, ouais. D'atteinte, voilà, des tendons en règle générale. Et puis, c'est vrai qu'une alimentation trop pro-inflammatoire, la junk food, trop d'acides gras.
Les kebabs,
trans,
je crois, hein, Jimmy. C'est pas bon.
Ah ouais,
pour
le kebab sport,
sport
là, c'est pas
c'est
terrible.
C'est pas tout
quoi.
À fait parfait, ouais, comme relation, ça.
Bon, un sportif ou une sportive, est-ce qu'il a. Je parle de gens quand même qui font vraiment du sport, là. Hein. Effectivement, je ne vous regarde pas, Jimmy. Est-ce qu'ils ont les mêmes besoins alimentaires, je veux dire, de base, hein. Pour l'instant, on n'est pas forcément dans la performance, mais est-ce que quand on est très sportif, on peut manger comme les autres ?
Alors, un peu différemment quand même, puisqu'il faut ces fameuses réserves de sucre, donc on va avoir besoin de plus de glucides. La population classique va avoir besoin de 50% de ses calories sous forme de glucides. Pour les sportifs, on
c'est sera... les sucres, hein, les glucides,
voilà,
c'est ça.
On sera plutôt à un minimum de 55%. Et puis, il faudra des protéines de bonne qualité et aussi du gras, mais pas trop de gras et pas trop de fibres juste avant l'effort.
Parce que justement, comment est-ce qu'on répartit ça entre les protéines, les glucides ? J'ai l'impression que ceux qui font de la musculation, par exemple, se gavent de protéines avec leurs œufs, la viande, le poulet. Mais du coup, est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'on doit manger plus de protéines que de glucides ?
Alors d'abord, non, il ne faut pas manger plus de protéines que de glucides. Les glucides restent la source principale d'énergie. Et puis les protéines, eh bien, on les trouve naturellement. Il faut se méfier de ces fameuses poudres. Parce que si on prend trop de protéines, que ce soit en fait beaucoup, beaucoup de protéines au niveau de l'alimentation, et qu'on rajoute une poudre, eh bien, on risque d'avoir des problèmes au niveau rénal.
C'est à la mode, enfin c'est tendance en tout cas, et puis bon, il y a des gens qui le font vraiment par conviction, X ou Y, qui sont végétariens. Est-ce qu'on peut être végétarien ou végétalien même, et être sportif tout en étant aussi performant surtout ? Est-ce qu'il y a un risque éventuel ?
Alors, il faut être très bon en nutrition, surtout si on est végétalien, parce qu'on rappelle que d'être végétalien, c'est de ne prendre aucune protéine d'origine animale.
Rien, même pas
viande.
Des œufs, même pas du lait.
Non, rien du tout. Ouais. Donc, il faut pouvoir trouver ces protéines, ces acides aminés essentiels dans les sources végétales. Et il faut savoir faire en fait, des associations sur la journée, parce que les sources végétales, à part le soja, n'ont pas tous les acides aminés essentiels. Donc, il faut savoir associer des produits céréaliers et des légumineuses. Et puis, il faut être sûr d'avoir son calcium, parce que si on ne mange pas de produits laitiers, il faut trouver son calcium ailleurs, dans des eaux minérales, des oléagineux ou dans des légumes. Et le fer aussi peut être un problème parce que le fer, c'est quand même ce qui transporte l'oxygène aux cellules.
On en a besoin donc, quand on fait du sport.
Et comment on a besoin d'oxygéner nos muscles. Et quand on ne mange pas de viande rouge, il va falloir trouver son fer ailleurs.
Très bien. Docteur Lacronière, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on vous détaille aujourd'hui ce qu'il faut mettre dans son assiette quand on veut rester en forme et même être plus performant du point de vue sportif. On donne le guide, on donne pas le guide du bien manger pour les marathoniens, je vous rassure, ce qui va suivre s'adresse vraiment à tous ceux qui ont envie au moins de se bouger un peu pour rester en bonne santé. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Catherine Lacronière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. On l'a vu juste avant, pendant une activité physique importante, le corps, il puise d'abord dans le sucre, dans les graisses, et puis on perd également de l'eau. C'est pour ça qu'il est très important de boire pendant le sport.
Oui, tout à fait. On a une déshydratation importante et d'autant plus si on fait son activité physique et qu'il fait chaud.
Il commence à faire chaud, hein, donc attention.
Il faut se méfier. Il faut boire, mais il ne faut pas non plus boire trop. On parlait tout à l'heure avec le docteur Mohamed d'hyponatrémie. C'est de la même chose. Si on boit trop, ben, on va risquer cette hyponatrémie. Donc, il faut boire un peu avant, un petit peu pendant et il faut boire un peu après également.
Mais du coup, on boit quoi ? De l'eau ou des boissons ?
Oui, pas du coco.
Non, mais il y a les boissons énergétiques ou énergisantes. Hein. D'ailleurs, la différence est importante. Mais c'est réservé à qui, d'ailleurs, ces super boissons pour recharger en électrolytes et tout le travail ?
Alors, la meilleure hydratation, c'est l'eau. Et c'est vrai qu'il y a des boissons énergétiques qui sont des boissons qui sont plus riches en sucre, en minéraux, parce qu'on perd des minéraux pendant le sport, on perd du potassium et du magnésium. Donc ce serait réservé aux gens qui font des exercices mais longs, par exemple, des courses de longue durée. Attention cependant, certains peuvent mal tolérer ces boissons et avoir des troubles digestifs. Quant aux boissons énergisantes, c'est pas du tout la même chose.
Alors là, on est hors sujet avec
voilà,
ça, hein, c'est
on
ça.
Joue, ouais, voilà, ouais. On joue sur les mots, mais en fait, ce sont des boissons dans lesquels on aurait rajouté des produits qui vont augmenter la vigilance de la taurine ou autre. Enfin, ça n'a rien à voir et c'est complètement déconseillé.
Il y a un risque cardiovasculaire même avec ces produits-là.
Oui, c'est des boissons qui sont censées donner des ailes mais qui vont donner des bourrelets parce qu'elles sont gavées de sucre en fait. Hein. Donc,
exactement.
Vraiment, surtout pour les jeunes, donc pour le sport, c'est pas terrible.
Et souvent associé à l'alcool, on en profite puisqu'on en parle, c'est très, très totalement déconseillé, Jimmy, on est
exactement,
d'accord.
Donc on évite et on bannit. Mais du coup, vous avez dit tout à l'heure, on fait attention, on mange des glucides, mais on va manger quoi par exemple ? Est-ce qu'il faut manger du pain, du riz, des pâtes?
Alors, il faut manger des aliments qui ont ce qu'on appelle un faible pouvoir sucrant, un faible index glycémique, de manière à ce que ces sucres puissent se mettre en réserve dans le muscle et dans le foie pour pouvoir fournir l'effort. Donc, on va choisir plutôt des aliments complets, en effet, des pâtes complètes, du riz complet.
Semi-complet, ça suffit, parce que
déjà
le complet, je trouve ça dégoûtant.
C'est déjà
semi-complet, ça a presque le même goût.
Oui, ça a aussi un index glycémique bas, des légumineuses, des fruits et des légumes, et puis aussi, il nous faut ces graisses. Hein. Donc là, on ne va pas choisir des frites et du hamburger, on va aller par exemple sur des oléagineux qui ont des acides gras essentiels.
De la bonne huile d'olive pour assaisonner ses légumes. Là,
exactement, tout à fait.
D'accord,
à fait.
Ça c'est bien. Et vous disiez les pâtes, mais pourquoi pas les pâtes blanches? Pourquoi vous êtes allé directement sur les complètes?
Alors, je n'ai rien contre les pâtes blanches, surtout si elles sont cuites al dente, parce que leur index glycémique reste bas, mais c'est vrai que si elles sont complètes...
La cuisson des pâtes compte en fait.
Exactement.
Hein, c'est ça. Si elles sont trop cuites, il se passe quoi?
Ben vous montez dans l'index glycémique et là, vous devenez... ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Vous allez avoir une hyperglycémie après consommation. Et c'est vrai qu'on préfère les aliments complets parce que l'index glycémique est un peu plus bas que sur les farines blanches.
Et du coup, on mange juste avant de faire son effort ou juste après?
Le plat de pâtes avant l'émission, Jimmy. Comme ça, vous êtes en pleine forme, c'est nickel.
Est-ce que c'est une bonne idée?
Il faut respecter un délai entre le repas et l'exercice physique. Les marathoniens mettent 4 heures. Vous savez qu'ils se réveillent très tôt le matin parce que les départs sont faits vers 9 heures. En général, ils sont debout facilement 4-5 heures avant pour prendre le petit déjeuner du marathonien. Mais nous autres sportifs classiques...
Voilà, pour nous, alors dites-nous, nous on va se lever à 4 heures du matin.
Il faut quand même respecter à peu près 2 heures avant l'effort, parce que sinon, si vous mangez juste avant, d'abord vous avez l'estomac plein, c'est pas très agréable.
Pas sentir très confortable.
Vous êtes en hyperglycémie, donc votre performance ne sera pas bonne non plus.
D'accord. Après l'effort, comment on gère la récupération? Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir un petit creux après avoir fait un petit footing, on va dire? On n'est pas sur le marathon là, on est sur les gens classiques qui sont moins peut-être performants. Qu'est-ce que je vais manger pour récupérer?
Alors d'abord, il faut réhydrater, même si on n'a pas soif. On sait qu'on a perdu beaucoup d'eau, donc il faut absolument boire. Et puis il va falloir
combien
reconstituer.
Combien je bois par exemple après un bon footing?
On va parler par gorgée, histoire de pas justement, mais 3, 4, 5 gorgées.
Ça
voilà.
Va, oui, donc c'est pas trop, mais un petit peu quoi.
Voilà. Et puis reconstituer ses réserves en glycogène, donc prendre des glucides avec justement un index glycémique bas. Donc si vous n'avez pas pris vos pâtes avant, vous pouvez les prendre après, mais comme vous avez quand même un peu faim, il vaut mieux aller sur, par exemple, une banane qui en plus va avoir des minéraux, en particulier potassium et un peu de magnésium, ou des, encore une fois, des oléagineux, des fruits secs qui vont permettre de reconstituer vos stocks.
Mélanie a eu quelques épisodes de diarrhée la semaine dernière suite à un effort physique. On le sait, le sport peut donner des transits
bidon,
un peu perturbés.
Et
du coup, est-ce qu'il faut faire attention à certains aliments qui vont peut-être encore plus accélérer le transit?
Oui, alors il faut faire attention à ceux qui vont augmenter la vidange gastrique. Donc c'est pour ça que les marathoniens vous le diront, la veille au soir, ils vont prendre de la volaille maigre avec des pâtes sans sauce tomate, parce qu'il faut éviter tout ce qui est fibre et tout ce qui est trop gras.
Il y a des incidents parfois sur les moments où ils arrivent là, les marathoniens en vol, certains qui se sont fait caca dessus, littéralement, parce que
quand vous êtes venus au repas la semaine dernière.
Et donc on évite les sauces et tout ça, le plus maigre possible.
Voilà,
hein,
on limite les fibres et les aliments trop gras avant l'effort.
Déjà, c'est faux, je ne fais pas de sport, donc ça ne sert à rien.
C'est réglé.
La première.
Nous, vous faites caca.
Oui, très bien. Allez, on va continuer, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Une émission sportive et gourmande aujourd'hui. Comment développer du muscle en bougeant, certes, mais en mangeant ce qu'il faut? Peut-on espérer maigrir en faisant du sport? Et comment s'y prendre concrètement? On y revient très vite. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être de retour très vite, juste après un peu de musique. C'est le chanteur Calogero, ça s'appelle Centre-ville.
Il pleut comme moi, je saigne.
écouter le chanteur Calogero sur Europe 1 avec son morceau Centre-ville.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Elle est toujours à nos côtés cet après-midi. C'est vous, docteur Catherine Lacronnière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors, il y a ceux qui font du sport, surtout pour rester en forme, et puis d'autres qui misent dessus pour perdre du poids, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit manger dans ce cas-là? Certains parlent beaucoup du régime miracle, le régime cétogène. Vous nous aviez parlé d'ailleurs dans cette émission il y a quelques mois. Est-ce que c'est une bonne méthode pour les sportifs qui veulent maigrir, quoi?
Alors, ce sont les grands sportifs qui, en général, ceux qui font, par exemple, des trails, des exercices avec qui nécessitent beaucoup de réserves d'énergie, qui sont souvent des accros du régime cétogène. Le problème, alors on le rappelle, hein, le régime cétogène, c'est moins de 5% de sucre, et le reste, c'est pratiquement que des graisses avec un petit peu de protéines. On vient juste de dire le contraire en disant qu'on avait besoin de ces sucres. Et donc, oui. Sur quoi compte-t-il? Bien sûr, le fait que comme vous ne mangez pas de sucre, vous allez directement puiser dans vos réserves de graisse qui sont là importantes, et finalement, vous pourriez avoir une résistance plus longue. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans le régime cétogène, c'est difficile d'en sortir. Oui. Donc, si on fait ça, il va falloir le faire sur du long terme.
Et c'est très difficile.
Et c'est pas facile, parce que ça reste un régime restrictif.
Alors, vous l'avez dit, faire du sport à jeun, c'est pas mal pour mobiliser les réserves. Est-ce qu'on peut essayer d'associer du jeûne intermittent et du sport? Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, pourquoi pas? En tout cas,
c'est quoi
pas
le jeûne intermittent, d'ailleurs, justement?
Alors, c'est le fait de ne pas manger pendant une durée de 16 heures. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrêtez de dîner, imaginons, vers 9 heures, et puis vous allez attendre 16 heures.
On saute le petit déjeuner.
Vous pouvez également choisir de sauter le dîner et de faire vos 16 heures en fin de...
C'est à la mode, ça. Hein,
c'est à la mode. C'est pas spécifiquement dangereux, sauf bien sûr pour des gens qui ont des vrais problèmes de santé. En particulier, on va pas conseiller ça aux diabétiques. Mais pour si vous n'avez aucun souci de santé et que vous avez envie de faire ce jeûne intermittent, oui, c'est tout à fait possible. Et puis, on le disait, on va toucher à nos réserves de graisse plus rapidement.
Ça fait maigrir, donc, le jeûne intermittent. Alors, on voit de tout un peu sur Internet là-dessus.
Oui,
pas
forcément. Je pense que c'est une association de beaucoup de choses. C'est une association donc d'un jeûne intermittent, d'une alimentation équilibrée le reste du temps et d'une activité physique régulière. Et puis, on va peut-être en décevoir plusieurs, mais ne faire que du sport et manger n'importe quoi, ça ne sert pas à grand-chose, on ne va pas maigrir efficacement. Le sport, finalement, c'est quelque part une aide indirecte à la perte de poids, puisque vous allez augmenter votre masse musculaire, que votre masse musculaire, elle dépense de l'énergie. Donc, si votre dépense énergétique globale est plus importante, vous aurez plus de facilité à maigrir. Mais il faut l'associer avec une alimentation.
Alors, vous avez dit qu'il fallait prendre des sucres lents de préférence, mais les sportifs ont aussi besoin de protéines. Vous avez dit qu'on évite les trucs en poudre, mais du coup, comment est-ce qu'on trouve des protéines de façon naturelle dans l'alimentation?
Eh bien, dans tout ce qui est, quand on n'est pas végétarien ou végétalien, les viandes, les poissons, les fruits de mer, si on mange des produits laitiers. Alors, certains vont vous dire attention, pas trop de produits laitiers, parce que ça pourrait favoriser les tendinites. Je dirais plutôt qu'il faut faire attention à l'inflammation et à manger donc beaucoup de fruits et de légumes. Pour en revenir à nos protéines, on peut manger des protéines animales, on peut également manger des protéines d'origine végétale avec les légumineuses, certains produits céréaliers et puis les oléagineux, et avoir son apport en protéines suffisant pour être au top pour son activité physique.
Donc suffisant, ça veut dire qu'il faudra en manger à tous les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, enfin de la viande, du jambon, des œufs, du lait, enfin oui,
non, c'est trop. Ça serait bien de varier, de faire une fois par exemple une source de protéines animales et puis une fois une source de protéines végétales. Puis on le disait, les végétariens aussi peuvent tout à fait bien avoir leur source d'acides aminés essentiels, s'ils connaissent bien leurs équivalences, midi et soir. Mais il ne faut pas être non plus trop obsédé sur les protéines, parce qu'on n'est pas dans un pays où on en manque, ça c'est pas du tout le problème.
Non, voilà.
Ça serait plutôt le fait d'en prendre trop. Donc au contraire, si on a un certain âge avec une situation rénale qui est un petit peu limite, une insuffisance rénale, même si on est sportif, il faut faire attention à son apport en protéines, et dans ce cas-là, ne pas être trop élevé en apport de protéines.
Alors, d'une façon générale, je suppose qu'il faut éviter les aliments ultra transformés, mais est-ce que c'est encore plus important quand on veut faire du sport ou quand on va se remettre au sport?
Oui, tout à fait, parce que dans les aliments ultra transformés, on sait qu'il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre, pas les bons, beaucoup de graisse et pas beaucoup de micronutriments. On ne trouve pas vraiment de vitamines, d'oligo-éléments, de fibres.
Dans la pizza, non. Même si on la prend avec des poivrons, ça ne suffira pas.
C'est déjà mieux, mais ouais, c'est ça. Tout à fait ça.
Jimmy aime la 4 fromages particulièrement. Je ne sais pas si celle-là est bonne, mais.
Bon, en tout cas, c'est pas conseillé, il faut essayer justement, c'est peut-être une bonne idée que de se mettre à faire ses courses, à faire la cuisine.
À faire sa pizza d'ailleurs soi-même peut-être.
Ça c'est encore mieux que de l'acheter toute faite, oui, parce que les aliments ultra transformés, c'est vraiment pas souhaitable.
Est-ce que vous avez connu des jeunes footballeurs, des jeunes sportifs qui justement faisaient un peu, pas n'importe quoi, mais bon.
Alors j'ai une histoire assez amusante. Il y a quelques années, je suivais comme ça, déjà en téléconsultation des sportifs de haut niveau, des footballeurs. Il y avait un jeune homme très talentueux qui venait d'être engagé par un club à l'étranger pour la première fois.
On aimerait bien avoir le nom, hein,
voilà.
Mais bon, allez-y.
Vous n'aurez pas. Et alors il mangeait, donc son club avait demandé que je fasse une consultation.
Vraiment, je crois. Non, c'est pas vrai. Non.
Pas du tout.
D'accord. Vous allez avoir ses avocats sur les côtes.
Non, c'était pas du tout lui. Et donc, ce jeune homme ne savait pas du tout comment manger. Et à un moment, je lui dis, écoutez, je sais pas, vous pouvez vous faire 2 œufs au plat. Il me dit, mais comment faire des œufs au plat? Ma maman m'a pas appris.
Wow.
Alors, j'ai dit, bon, alors donc, il faut vraiment reprendre les bases. Mais maintenant, les clubs font de plus en plus attention à ça. Et il y a véritablement
un suivi nutritionnel et un apprentissage même.
Voilà, hein. On mange beaucoup, c'est vrai, dans les clubs, on mange très équilibré. Et on y fait très attention maintenant.
Bon, et nous aussi, même si on n'est pas des sportifs de haut niveau, qu'on va faire la Coupe d'Europe, là, on doit faire attention à ce qu'on mange. On l'a compris.
Exact.
Bon, très bien. Docteur Lacronière, je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi pour cet éclairage autour de l'alimentation et de l'activité physique. Bonne continuation à vous. Merci encore.
Merci beaucoup.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Jimmy nous dira aujourd'hui tout ce qu'il y a à savoir sur la phlébite, cet accident veineux qu'il faut prendre très au sérieux. Comment l'éviter, la dépister, la soigner, vous saurez tout. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un éclairage sur un accident veineux assez fréquent, à savoir la phlébite. Savez-vous ce qu'il se passe concrètement quand survient cet accident? Quelle est la cause? Comment la dépister et la traiter? On va faire le point juste après avoir écouté notre micro-trottoir réalisé par Barbara Silvera Sonigo.
Une phlébite, ça serait un problème d'érection, je pense.
C'est pas un truc avec les artères, un truc comme ça?
C'est un problème au niveau des jambes, c'est un problème de circulation du sang.
J'imagine qu'on peut avoir une sensation de jambes lourdes et peut-être aussi des douleurs.
La phlébite, ça peut faire très très mal. Il y en a beaucoup qui se font opérer et même après l'opération, ça peut faire très mal.
Ça fait comme des crampes.
On n'arrive plus à avoir d'érection. C'est dû au fait qu'on n'a pas assez de sang qui arrive jusqu'au pénis.
Alors moi, je situe plutôt dans les jambes, mais je ne sais pas si ça peut être aussi ailleurs.
Ça peut être héréditaire.
Je pense que c'est la malnutrition qui empêche le cœur de bien pomper le sang.
Alors, je crois que c'est un traitement chirurgical. On se fait enlever un morceau de veine.
Je pense que le traitement est fait à base de ponction.
Il faut manger de l'ail. L'ail, il paraît, c'est très bon pour la circulation du sang. Ouais.
Bon, il y a quelques trucs intéressants, quelques trucs un peu plus approximatifs. Jimmy, on va faire un petit cours de physiologie pour démarrer cette séquence. D'abord, une phlébite, c'est quoi?
Ça n'a rien à voir avec des problèmes d'érection. C'est pas parce qu'il y a phlébite que ça a
un
rapport avec
le zizi.
Alors, phlébite, ça vient de phlebs, qui veut dire veine en grec. Et d'accord. Donc, c'est l'inflammation de la veine.
Vous avez fait du grec, vous?
Eh ouais. Oui, le temps d'aller sur Google. Mais en fait, la phlébite, c'est la formation d'un caillot de sang dans une veine. Et on appelle ça plus communément, en tout cas dans le jargon médical, la thrombose veineuse. C'est 100 000 Français qui vont en faire
quand
chaque
même,
année.
Hein,
donc,
ouais.
C'est chaque année, c'est fréquent. Et puis, la thrombose veineuse, la phlébite, est le plus souvent au niveau des jambes. C'est ce que les gens connaissent le mieux. Et c'est dans 90% du temps, c'est au niveau des jambes qu'on a ça.
Ah, vous avez dit la majorité du temps, mais ça veut dire qu'il y a des phlébites ailleurs. On peut avoir une phlébite du bras, par exemple.
Exactement.
Ah ouais.
Toutes les veines de votre corps peuvent être le siège d'une phlébite.
D'une thrombose. Alors, quoi,
exactement,
c'est ça.
D'une thrombose qui peut être superficielle, c'est-à-dire toucher un petit vaisseau qui est à fleur de peau, ou même plus profonde. Et puis, il y a des zones atypiques, on appelle ça des phlébites atypiques, comme celle du cerveau. On a beaucoup entendu parler
oui,
avec la vaccination d'une thrombophlébite cérébrale.
Phénomène rare, on le rappelle.
Phénomène rarissime, encore une fois, heureusement, qui fait qu'on va avoir une veine qui va se boucher au niveau du cerveau, même si, évidemment, c'est rare et la plus fréquente, je l'ai dit, c'est la thrombose veineuse au niveau des jambes.
Alors, c'est quoi les causes les plus fréquentes de phlébite? On pense systématiquement au voyage en avion. Pourquoi d'ailleurs?
C'est un des facteurs favorisants. Alors, toute situation qui va provoquer un alitement où vous allez ne plus bouger, qui va faire que le sang va stagner, va moins bien circuler, est propice à la formation d'un caillot. Et puis, mine de rien, il y a certains facteurs qui vont provoquer de l'inflammation. Quand vous avez un cancer, par exemple, il y a plus d'inflammation dans le sang, donc vous êtes plus à risque de phlébite. Et on sait que la grossesse, c'est la même chose. Pourquoi ? Dès que vous êtes enceinte, le corps se prépare à l'accouchement. Un accouchement, il y a un risque d'hémorragie. Et pour éviter cette hémorragie-là, il y a une situation d'hypercoagulabilité. Ça veut dire que le sang va plus coagulé pour éviter justement d'avoir une hémorragie.
Il se prépare. Mais bon, ça peut causer des problèmes.
Exactement.
Quoi,
ouais. Et puis, il y a certains traitements, notamment la pilule qui peut favoriser les phlébites. Le tabac, on n'en parle pas suffisamment. Et puis, on sait aussi que le surpoids, l'obésité sont des facteurs prédisposant à la phlébite.
Alors, quand on souffre d'une phlébite, rapidement, Jimmy, les symptômes qui doivent donner l'alerte, c'est quoi ?
On peut ne pas avoir de symptômes, on peut s'en rendre compte de façon fortuite,
ouais.
Et puis on peut avoir des douleurs au niveau du mollet. Alors ces douleurs qui sont un peu particulières parce que ça fait pas très mal, ça fait un peu mal, on a l'impression qu'on a pas un petit claquage, le mollet peut être un peu douloureux,
quoi, ouais.
Un peu chaud, un peu inflammatoire, donc le message à retenir, c'est si jamais vous avez le moindre symptôme, direction le médecin pour la prescription d'une échographie.
D'accord. Et une fois qu'on a la confirmation, c'est quoi la prise en charge d'une phlébite ? On meurt pas à tous les coups, on va rassurer les
gens.
Alors,
la phlébite qui pose problème, c'est celle qui va être au-dessus du genou, puisqu'elle peut migrer et donner une embolie pulmonaire.
Le
et donc,
caillot, hop, il va monter vers les poumons.
Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prescrire un traitement anticoagulant pour fluidifier le sang et éviter la récidive. Ça se traite très, très bien. On peut proposer désormais des comprimés. Il n'est plus nécessaire d'avoir des piqûres pour fluidifier le sang. On prend des anticoagulants sous forme de comprimés. On prend ça pendant quelques semaines et puis en général, tout rentre dans l'ordre et ça évite les complications.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, c'est dans quelques toutes petites minutes. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La sexo, ce sera après un peu de musique. C'est la chanteuse Tori Amos avec son morceau Crucify.
Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the faces, then get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. Been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we oppress by ourselves?
La chanteuse Tori Amos sur Europe 1 avec ce titre qu'elle avait sorti en 1992, Crucify.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Maëlys. Jimmy, est-ce que vous pouvez nous la lire, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Alors, je ne suis pas du tout à l'aise quand mon copain me fait un cunnilingus. J'ai l'impression que ce n'est pas agréable pour mon partenaire, même s'il m'affirme le contraire. Mais du coup, je ne prends pas de plaisir. Est-ce que vous avez des conseils ? Alors, on se doute, Catherine, que vous avez des conseils, mais moi, je peux essayer de commencer à répondre.
Non, je ne réponds pas.
Non mais s'il si dit que c'est agréable
si, si,
non, mais
quand si, je le laisse lire, après il part en freestyle tout seul comme ça.
Ah oui, tel, oui, du stand-up.
Non, vous êtes généraliste.
Exactement. Mais du coup, alors, si on reprend la base, il dit que c'est agréable, mais oui, elle ne le croit pas. Mais du coup, qui croire ?
Alors effectivement, donc je pense que de toute façon, ce qui est intéressant dans la question de Maëlys, c'est que elle projette que ce n'est pas agréable, ce qui pose avant tout la question de savoir comment elle envisage son propre sexe. Est-ce que ce sexe est regardable, embrassable, léchable, je ne sais pas si tous ces mots existent, mais on les comprend bien, caressable. Donc en fait, c'est la propre idée qu'elle se fait de ce sexe qui ne serait pas à la hauteur, pas intéressant, peut-être pas beau, peut-être dégoulinant, je ne sais pas quels sont les mots négatifs qu'elle a à l'égard de ce sexe pour imaginer que justement un homme ne puisse pas y trouver son compte. On peut espérer que...
Il y a des femmes vraiment qui pensent ça de leur sexe, quoi, qui ont bien sûr. Espèce d'a priori.
Ah, mais bien sûr, qui trouvent que vraiment il n'est pas beau, que c'est dégoûtant, que comment on peut mettre la bouche dessus. Alors après, certaines sont tout aussi mal à l'aise avec les fellations, alors que d'autres ne le seront pas avec la fellation, comme si ça c'était peut-être plus facile ou plus légitime, parce que bercé par l'idée que les femmes doivent satisfaire le désir masculin, mais que le cunnilingus, par essence, c'est la manifestation de toute une sexualité dirigée vers la femme, donc la mise en avant de la femme, du plaisir féminin, de l'excitation féminine. Et dès lors que, ou je trouve mon sexe pas beau, ou je n'ai aucun plaisir, eh bien, par définition, je vais avoir peur de tout ce temps qui m'est consacré et qui met en lumière ma difficulté. D'où le fait que je projette que c'est l'autre qui ne l'aime pas.
Ce que dit Maëlys, c'est intéressant aussi, parce qu'on n'a jamais de questions d'hommes, à l'inverse, qui disent « je ne supporte pas les fellations », parce que les hommes comme ça, qui n'aimeraient pas leur sexe, que ce que vous venez de décrire pour une femme, ça arrive moins...
Ça arrive quand même, parce que vous avez des hommes qui vont avoir peur de la fellation, parce qu'ils vont avoir peur d'être mordus, d'être
blessés,
etc.
Mais pas parce qu'ils sont effrayés par leur partie intime, quoi.
Non, pas parce qu'ils ne trouvent pas beau, sauf ceux qui ont des vrais complexes, parce qu'ils ont un trop petit pénis, ou qu'il est trop coudé, etc. Ou pas, parce que parfois, ce n'est pas le cas, mais c'est dans l'idée qu'ils s'en font. Et le face-à-face qu'imposent les actes bucogénitaux fait un face-à-face visuel qui oblige à le regarder, à savoir qu'on est vu et vu de près, et du coup qui nous renvoie toute la difficulté que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre sexe. Ce n'est pas si facile que ça d'accueillir son sexe.
Oh là là, je vois Jimmy sourire.
Non, mais parce que j'essaie de comprendre. Aïe, aïe. Non, mais à moins que ça sente le poisson dans la culotte. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison que le cunnilingus pose problème.
Vous
c'est
voulez
pas
parler
sale.
D'infection génitale, d'infection sexuellement
transmissible. Oui, exactement. Évidemment, d'un point de vue purement médical, mais il n'y a pas.
Mais c'est comme la fellation. C'est ça.
Ah oui, sentir le poisson aussi.
Ah oui, c'est problématique.
Voilà. En fait, évidemment que ça peut être détestable, ça peut être butant pour X raisons de soins que l'on ne s'est pas accordé ou de pathologie, bien sûr. Mais fondamentalement, à partir du moment où une femme ou un homme laisse venir en ce lieu-là, c'est qu'il se sait safe de ce côté-là, et donc il sait que l'autre l'est. Donc dans la mesure, oui, a priori, peut-être pas toujours du côté des messieurs qui voilà, c'est ça que vous vouliez dire, moi, je suis d'accord avec vous.
Surtout après avoir fait pipi, ne pas bien nettoyer le bout du zizi.
C'est ça, c'est important, bien sûr. Et puis voilà, bien sûr, on prend soin de soi, c'est important. Mais sinon, dans la réalité, si l'homme y est et qu'il ne se retire pas, c'est qu'il s'y trouve confortable et qu'il en est curieux et qu'il en est gourmand. Donc c'est vraiment sa propre difficulté avec elle-même, sa propre culpabilité qui est à l'origine de cette projection en fait.
Et comment on peut l'aider alors? Parce qu'à la fois on peut aussi ne jamais aimer les cunnilingus quoi. Enfin, on a le droit de ne pas aimer ça et puis c'est tout quoi.
Bien sûr, on dit non, ça me plaît pas. En réalité, ce qui est très difficile dans le cunnilingus, c'est d'accepter que tout d'un coup tout se passe entre ses
jambes.
Mais
elle dit quand même qu'elle aimerait y prendre du plaisir, alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller?
Alors, si elle aimerait y prendre du plaisir, qu'elle déjà elle réfléchisse, qu'est-ce qui lui pose problème? Pourquoi elle projette que l'autre n'aime pas? Est-ce qu'il y a eu une grimace? Est-ce qu'il y a eu un truc fait, mais ni fait ni à faire? Mais sinon, si tel n'est pas le cas, je crois qu'elle a à se mettre en paix avec son sexe, et se mettant en paix avec son sexe, le trouvant joli, le trouvant normal, le sentant elle-même, le goûtant peut-être elle-même, pour voir que franchement, on n'est pas obligé de mettre ça, de faire du yogi, d'être yogi, on peut mettre avec ses doigts aussi.
D'accord.
Donc, mais pour voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, et du coup qu'elle peut s'abandonner. Et là encore, si elle a besoin pour s'abandonner d'intimité, eh bien que les lumières s'éteignent pour que justement elle puisse être tout à la tranquillité de son plaisir, sans la peur du regard de cet homme qui est entre ses jambes et qui cherche qu'une chose, lui faire du bien.
Très bien, encore une chronique très pratique aujourd'hui, Catherine.
C'est mon jour.
Cette semaine.
Voilà,
hein,
c'est ma semaine. C'est ma
merci
semaine,
beaucoup. Et donc à demain à tous les deux. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Avec Historiquement Vôtre, oui, c'est ça. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Des esprits libres, enfermés, c'est ce que la prison a inspiré. Jean Genet, évidemment, qui a écrit des pages magnifiques. Albertine Sarrazin aussi, qui a écrit un roman après s'être cassé le pied en tombant, en voulant s'échapper de sa prison. Et vous avez trouvé... Oh là là, là vous frappez fort.
Pourquoi vous avez peur que j'évoque Joestar? Joestar a fait de la prison, ça lui est arrivé. Il a eu quelques broutilles, démêlés comme ça avec la justice. Mais vous allez voir, ça l'a beaucoup inspiré. Puis ça fait très longtemps qu'il n'y est pas retourné.
Oui, c'est un acteur formidable.
Acteur fabuleux.
Merci beaucoup messieurs, très beau programme. On sera évidemment comme tous les jours à l'écoute. Et vous aussi, je vous le conseille, restez bien sur Europe 1.